Cette émission vous est présentée par Abyss Ingrédients, fabricant d'ingrédients naturels marins et durables. Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Bonjour Déborah.
Bonjour Fabrice.
Alors l'émission s'appelle Tout va bien, mangeons. Heureusement que c'est pas Tout va bien, la technique est ok. Parce que non, on a eu des petits soucis cette
oui.
semaine.
Eh oui, c'est la galère.
Ah, mais alors, chers auditeurs, il y a un son un peu qui n'est pas habituel avec Déborah, mais néanmoins qui est quand même assez clair. C'est entre le téléphone et je sais pas, mais bon, je pense que ça ira pour les auditeurs parce qu'on va se concentrer évidemment sur le contenu que vous nous avez préparé pour cette émission. Et vous vouliez parler du Ramadan, puisque je crois que les musulmans ont entamé ce jeûne qui dure un mois.
Oui, exactement. Et je voulais parler plus particulièrement des pièges nutrition qui seraient intéressants à éviter en fait pendant le Ramadan. Effectivement, comme on est en pleine période de Ramadan, comme chaque année, y a plein de personnes qui vont le commencer, soit en cours de route, soit dès le début, pendant un mois. Et c'est une période qui n'est vraiment pas facile pour le corps, qui doit, lui, s'adapter à un nouveau rythme alimentaire qui est certes temporaire. Mais je constate, hélas, chez mes patients et même chez mes amis qui le pratiquent, que beaucoup font des erreurs nutritionnelles, parfois qui peuvent même être très dangereuses dans certains cas. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais qu'on fasse un point. J'ai relevé en fait 6 pièges qui sont assez fréquents. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je pense que les 6 pièges que j'ai relevés sont ceux qu'on retrouve le plus fréquemment. Pour apporter une meilleure condition de santé à cette pratique du jeûne.
Bien, eh bien écoutez, on va démarrer cette émission effectivement parce que déjà c'est très intéressant pour ceux qui pratiquent le Ramadan, pour ceux qui le font. Deux, un titre d'information, même si on ne le fait pas, et puis aussi pour les personnes qui pratiquent le jeûne, parce que j'imagine que c'est des erreurs et des pièges que l'on peut aussi, dans lesquels on peut aussi tomber quand on est, je sais pas, on va rentrer dans une période de jeûne justement.
Oui, bien sûr. Alors là, oui, là, je l'ai ramené au Ramadan, mais c'est valable pour tout type de jeûne assez long. C'est des jeûnes qui durent au moins 12 heures. Ces conseils
on les prend quand
sont
même.
Utiles.
Voilà. Oui. Histoire de n'exclure personne dans l'audience de Nutri Radio. Quel est le piège donc numéro 1?
Eh bien, le piège numéro 1, c'est de rompre le jeûne avec une date. Alors, je sais que c'est très, très culturel, ça. De casser le jeûne avec une date. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on le casse avec beaucoup de sucre, la date, c'est un aliment qui est très chargé en sucre, ça peut amener à des malaises d'hypoglycémie. Et d'autant plus si on est diabétique, par exemple. On peut arriver, en fait, quand on va ingérer la date, ça va augmenter un pic de glycémie en apportant du sucre simple de façon trop rapide et du coup on peut provoquer des malaises. Donc ce qui serait intéressant pour faire un peu un mix et respecter un peu la culture, on peut garder la date mais on peut la mixer avec des aliments qui sont moins sucrés, ce qui va participer à baisser un peu ce qu'on appelle l'index glycémique. Donc par exemple on peut la manger avec des amandes ou consommer la date pas de manière isolée au cours d'une petite collation par exemple. Ça serait beaucoup plus bénéfique que de commencer le jeûne, la rupture du jeûne avec une date, et ça quasiment tout le monde le fait, ça. Enfin, tous ceux que je connais le font.
D'accord, le font.
Voilà. Ouais, le font. Ouais, j'ai du mal. Je suis encore sur les difficultés.
Ouais, vous êtes encore sur les difficultés techniques.
Oui, c'est ça.
Je vois. Non, mais alors, c'est vrai qu'il faut expliquer, chers auditeurs, que encore une fois, là, on est en distanciel. Ah, d'ailleurs, on n'était pas censé se voir cette semaine, mais bon, on est en distanciel et qu'on a eu quelques petits souci à la connexion, ça fait une heure qu'on essaie de se connecter. Donc voilà, Déborah qui est quand même quelqu'un de très sensible, elle est encore dedans, mais il faut tourner la page à un moment donné. Il faut rompre l'incident technique. Donc ce qu'on va faire, on va faire une toute petite pause, le temps que vous puissiez reprendre bien vos esprits, et on revient avec cette émission. Aujourd'hui, les 5 pièges nutrition à éviter donc pendant le Ramadan, et même 6 pièges, parce qu'il y en a un en bonus. On y revient dans un tout petit instant, juste après ceci.
Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss Ingrédients présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté, composé de peptides et d'oméga 3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins, issus de coproduits de la pêche locale, dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah Ohana, aujourd'hui sur Nutri Radio avec une connexion un peu spéciale. Là, c'est la connexion, on fait ce qu'on peut, ça s'appelle, chers auditeurs. On a tous connu ça, on a tous des moments dans la vie où on a une connexion, on fait ce qu'on peut. Et donc, dans cette émission, aujourd'hui, vous nous parlez des 6 pièges nutritionnels à éviter pendant le ramadan. Vous êtes revenu sur le premier piège qui consiste à rompre le jeûne avec une date. Donc, visiblement, c'est ce qui se fait et on vous avait expliqué les raisons pour lesquelles ce n'était pas une bonne idée. Quel est le deuxième piège dans lequel on tombe ?
Le deuxième piège, qui est assez fréquent également, c'est de manger d'un coup l'équivalent d'une journée alimentaire entière en une seule prise. Vous savez, c'est manger, en réalité, essayer en tout cas de manger tous les repas qui ont manqué durant la journée, directement après avoir rompu le jeûne. En fait, ça va générer d'une part une fatigue, mais surtout une surcharge digestive qui demandera une trop longue digestion. Moi, j'ai plein d'amis, pour utiliser l'expression, ils vont s'éclater vraiment littéralement le bide en mangeant d'un coup, de façon très rapide, dès que le jeûne va être rompu. Et c'est très compliqué. Donc, il est plutôt préférable de fractionner son alimentation en plusieurs petits repas. Par exemple, de casser le jeûne avec une petite collation. On attend une ou deux heures après, on fait un repas plutôt léger. On attend, on fait une petite pause, on fait une autre collation une heure après. Et puis, si on se lève, parce que il y a le repas du petit déjeuner pour les personnes qui peuvent se lever le matin, et ben là, on va faire un repas plutôt complet. Mais du coup, je sais que c'est pas évident quand on jeûne parce que il y a plein de systèmes hormonaux qui se mettent en place et on peut avoir vécu une sorte de frustration durant la journée de jeûne et on a tendance à vouloir aller se gaver un petit peu dès que le jeûne est rompu. Ben ça, en fait, c'est vraiment, vraiment un piège. C'est hyper, hyper fonctionnel de fractionner son alimentation, mais surtout de pas trop surcharger le système digestif d'un coup qui va pas comprendre en fait ce qui lui arrive.
Ah ben évidemment. Alors là, c'est le ramadan en ce moment. C'est quel le soleil se lève à quelle heure? Il se couche à quelle heure? De quelle heure à quelle heure on
c'est pas mal. Ouh là là, alors là, vous m'en demandez trop, mais je pense qu'on est dans les alentours de 20h. En fait, ça change au fur et à mesure du mois. Des jours et que le mois avance, c'est pas tout le temps les mêmes horaires. Et donc, on est aux alentours de 20h, 20h30. Et puis, plus on va avancer, plus ça va être tard. Et donc, effectivement, ça va être plutôt le matin, parce que le soleil se lève plus tôt.
D'accord. Parce que moi, j'avais des amis, quand j'étais jeune, qui se levaient la nuit. Ils mangeaient la nuit, en fait. Oui. Donc, je ne sais même pas si c'est pas pire. Enfin, c'est pas pire. C'est pas une question de pire, mais bon.
Mais oui, ça, c'est quand ça tombe pendant l'hiver. Pendant l'hiver, plutôt pendant l'été.
Pendant l'été, oui, voilà, c'est ça.
Oui. Et du coup, ils vont se lever la nuit pendant que ils peuvent encore manger. C'est pas hyper fonctionnel de manger la nuit, même pendant Ramadan. Après, bon, c'est une période qui est quand même temporaire. Là, l'idée, c'est de mettre en place des actions pour préserver sa santé et permettre au corps de mener un jeûne de façon optimale, quoi.
Très bien. Autre piège à éviter, Déborah.
Eh ben, ne pas laisser un temps suffisamment long de digestion, même si, on le disait, c'est en fonction des années et que ça n'est pas toujours évident à faire, il est important de laisser au moins 2 heures entre la fin du repas et le coucher pour laisser au corps un temps de digestion minimum. Dans un idéal physiologique, on est plutôt à 4 heures, mais bon, dans les périodes de ramadan, on peut raccourcir ça à 2 heures, mais il faut pas, par exemple, manger juste avant d'aller dormir, par exemple, ça peut perturber le sommeil, et si ça n'est pas possible de laisser ce temps, on peut tout à fait aller marcher un peu, aller respirer dehors, ou faire des activités plutôt légères et douces à la maison, comme des étirements, ça peut tout à fait être utile.
Très bien, autre conseil, Déborah ?
Eh bien, ne pas manger pour ne pas avoir faim plus tard. Alors, c'est assez surprenant, ça. Ça peut un peu sembler un non-sens, mais je l'ai entendu pas plus tard qu'hier avec une de mes patientes qui ne mangeait pas. En fait, elle ne mange pas, par exemple, le matin pour ne pas, entre guillemets, réveiller son système digestif et subir, en fait, la faim plus tard, durant la phase de digestion. C'est un peu à contresens parce que, en réalité, c'est le contraire. C'est quand on va manger, on va constituer, en fait, un stock en énergie suffisamment convenable pour avoir le plus possible une bonne gestion de faim qui sera fonctionnelle dans ce contexte de Ramadan.
Très bien. Ne pas manger, tiens, c'est... on ne mange pas du tout. C'est encore ouais. Une autre option. On arrête de manger.
Mais j'ai une patiente, vraiment, c'est la première fois que j'avais entendu ça, mais elle me disait, moi, je ne mange pas le matin. Mm-hmm. Je ne me lève pas, même si j'ai faim. En fait, elle se levait le matin, mais elle se forçait à ne pas manger parce qu'elle avait peur d'avoir une faim extrême sur 3-4 heures après. Quoi.
Très bien.
Et c'est un peu à contresens.
Bon, bah ça, c'est une patiente. Hein, et donc...
ouais, mais je me dis, si j'en ai une, peut-être qu'il y en a des centaines qui fonctionnent comme ça.
Ah, parce que
ça
veut dire que pendant 30 jours, hop, boum, bon, après... c'est un petit peu compliqué. Ce qu'on va faire, et après, en fait, elle ne mange pas pendant 30 jours. Et après, comme non, elle a peur aussi de se réhabituer à manger, elle continue à ne pas manger, vous voyez.
Je suis pas sûre de ça.
Ce qu'on fait, c'est qu'on marque une pause, Déborah, et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin déjà de cette émission sur Nutri Radio.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Des conditions techniques, je suis obligé de préciser parce que le son avec Déborah aujourd'hui n'est pas comme d'habitude, mais il n'est pas mauvais, mais il n'est pas comme d'habitude. Voilà. Vous écouterez, comme cette émission est enregistrée, Déborah, quand vous réécouterez, vous direz ah oui, même quand vous réécouterez le podcast. D'ailleurs, est-ce que vous réécoutez vos émissions en général, Déborah, pour vous dire tiens, je vais améliorer ça, ou qu'est-ce que j'aime, mes conseils, qu'est-ce que j'ai une belle voix.
Au début, j'écoutais. Là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu moins le temps, mais je devrais le faire.
Ah oui, on a
ça
perdu.
Ça devrait être dans ma to-do list.
Oui, on a perdu une auditrice. Je l'ai vu, je le vois. On a perdu. Il y a un point qui s'éteint là. Pam. Donc, Déborah, ben, réécoutez cette émission quand même. Je vous le conseille. Et vous verrez la. Vous écoutez celle-là et vous écoutez celle d'avant. Vous allez voir une différence au niveau du son. Chers auditeurs, merci d'être avec nous et on remercie Déborah Ohana pour nous apporter le contenu. Parce que c'est le contenu qui compte. Et aujourd'hui, c'est une émission qui concerne le Ramadan. Parce qu'on est en plein Ramadan, donc on embrasse, on a une pensée pour tous nos auditeurs musulmans. Et on vous leur donner donc les 6 pièges à éviter pendant le Ramadan. Et ce qui vaut d'ailleurs aussi si vous faites le jeûne. Écoutez bien ces conseils parce que voilà, c'est aussi valable. Par exemple, rompre le jeûne avec une date, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, grosso modo, ça veut dire si vous ne mangez pas pendant une certaine période, ne prenez pas un aliment trop sucré pour reprendre l'alimentation. C'est bien cela, Déborah, finalement, que ça signifie.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
Piège numéro 2, manger l'équivalent d'une journée alimentaire en une seule prise. Vous l'avez dit, effectivement, on a faim et d'un seul coup, on se dit hop, 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 je vais rattraper mon petit retard et après, j'aurai plus faim non plus après. Piège numéro 3, ne pas laisser un temps suffisant de digestion. Vous avez précisé qu'il fallait au moins 2 heures. Enfin, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est qu'il ne... Voilà, ça c'est encore très très rare. Hein, quelqu'un qui ne mange pas du tout pour ne pas avoir faim plus tard. Mesdames, messieurs, si vous n'avez pas compris cette logique, on va passer.
C'est pas qu'elle ne mangeait pas du tout, c'est qu'elle ne mangeait pas le matin. Elle mangeait que le soir,
oui,
en
non,
fait.
Elle avait faim, d'accord.
Elle avait faim le matin quand elle se levait, mais elle se forçait à pas manger. Parce qu'elle avait peur d'avoir trop faim sur la période de jeûne. Mais elle mangeait le soir.
D'accord.
Quoi.
On peut pas accueillir tous les cas de la Terre non plus, vous savez. Dans la... on peut pas accueillir tout le monde.
J'ai pensé intéressant, parce que si elle fonctionne comme ça, vraiment, je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent penser la même chose qu'elle.
Évidemment. Alors, vous avez raison. C'est très altruiste de votre part. Quelle bienveillance. Quelle empathie poussée à l'extrême.
Mais oui.
Donc, allez, on continue avec les derniers pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le quatrième, vous dites... le cinquième,
oui,
manger des aliments...
Le cinquième, qui ne mène pas à une satiété optimale. C'est assez important, j'aurais même pu le mettre en premier. Parce que ce qui va apporter de la satiété, c'est vraiment des féculents, c'est des sucres complexes. Et donc, si on part dans une idée de manger beaucoup de légumes ou un repas entier uniquement de soupe, même si c'est une soupe qui est plutôt consistante, ça reste une soupe. Et en fait, ça peut rassasier sur le moment ou donner l'impression de l'être, mais en réalité, dans le temps, ça va pas du tout tenir. C'est-à-dire que quand on jeûne, il faut quand même avoir, il faut avoir certains aliments qui vont constituer ce qu'on appelle un stock en glycogène. Notre stock en glycogène, c'est ce qui représente en fait notre première source énergétique de notre corps. Et donc en fait, les féculents, c'est un peu leur job, ça. C'est de constituer notre stock en glycogène pour pouvoir en fait réguler les constantes vitales en glycémie et apporter de l'énergie sur le long terme. Un peu comme les sportifs. Vous voyez, les sportifs qui s'apprêtent à faire, je sais pas, un marathon ou une compétition, eh ben, ils doivent constituer leur stock en glycogène en apportant beaucoup de féculents, beaucoup de sucres complexes. Ben, c'est un peu la même chose. Là, il faut donner les moyens au corps de pouvoir réguler les constantes vitales, notamment en glycémie, pendant la période de jeûne. Et si on n'a pas un stock en glycogène convenable, on peut avoir des hypoglycémies pendant ce jeûne. Surtout que là, on boit même pas, en fait, il n'y a même pas de source hydrique. C'est vraiment un jeûne pur et dur. Donc, c'est important. Donc, il faut favoriser systématiquement les féculents dans chacun des repas que vous allez mettre pendant, en fait, la rupture de jeûne. Vraiment, et des féculents qui cale plutôt bien, c'est-à-dire qu'on va peut-être plutôt favoriser des féculents complets ou semi-complets, on va toujours tendre vers la structure alimentaire de protéines, féculents, légumes, les briques ou les choses comme ça, ça va pas forcément être des aliments qui vont caler sur le long terme. C'est plus intéressant de prendre un plat de pâtes, par exemple.
Très bien. Et enfin, le dernier piège dans lequel on peut tomber. Alors moi, ça m'a un peu étonné là quand je l'ai lu, parce que j'ai cru que c'était plutôt le contraire. Non, je crois que c'est vous. Parce que dites-le nous.
Bah, en fait, boire une trop grande quantité d'eau d'une traite, d'un coup. Ça aussi, c'est un piège fréquent. C'est-à-dire que dès que le jeûne va être rompu, il y a beaucoup de personnes qui vont boire, mais quasiment presque une bouteille entière pour justement réhydrater le corps. Surtout si on a eu très soif durant le jeûne, bah, en fait, on va avoir peur d'avoir soif sur le jeûne qui va s'enchaîner. Et donc, ça peut nous amener à boire souvent trop et trop rapidement une trop grande quantité d'eau. Et ça, en fait, en réalité, ça surcharge le système digestif, mais d'eau. Et donc, ça peut couper un peu la faim, l'appétit de manière générale, et ne pas laisser suffisamment de place pour les aliments qu'on va s'apprêter à ingérer. En fait, on va se blinder d'eau, et donc ça va être plus difficile de manger après ça. C'est plus intéressant, même si ça n'est pas évident, de mettre plutôt en place un plan hydrique qui se répartit sur l'ensemble de la période alimentaire et non pas en une prise ou en des prises excessives qui vont pas être pertinentes en fait. Donc par exemple, on peut prendre un ou deux verres d'eau à la rupture du jeûne, un verre d'eau pendant les repas, un verre entre les repas et un ou deux verres d'eau au coucher. On a en réalité quasiment 1,5 litre de litre d'eau qu'on n'a pas apporté sur la journée, mais réparti en plusieurs prises. C'est très important. Il faut aussi savoir que l'eau chaude va avoir tendance plutôt à mieux réhydrater que l'eau froide, et de même que pour l'eau gazeuse qui réhydrate mieux de manière générale.
Ah, l'eau gazeuse, ça réhydrate mieux.
Oui, bah c'est souvent des eaux qui sont plus chargées en micronutriments et donc ça va réhydrater un peu plus, notamment en sel, en calcium, des micronutriments comme ça qui peuvent être un peu plus lésés dans les périodes de jeûne.
D'accord, donc ça c'est un peu le même conseil avec l'eau qu'avec l'alimentation tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait la même, si on fait, on cumule plusieurs pièges, c'est-à-dire qu'on mange énormément, on boit énormément. Et là, oui. C'est le problème.
Bah, ça, même si on ne fait pas des phases de jeûne. Hein. Il y a par exemple des patients qui boivent pour ne pas manger. Mmh. Ils boivent en fait de l'eau pour s'empêcher de manger. C'est une stratégie de contrôle alimentaire. Et on peut arriver, alors là, on sort du contexte, mais il y a une maladie qui est comme ça, qu'on appelle la potomanie, qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, et qui est de boire des quantités de dingue d'eau, à 5 litres d'eau, 4-5 litres d'eau par jour, pour s'empêcher de manger. Et en fait, ça donne l'illusion qu'on est pleine, qu'on est rempli, mais en réalité, on est rempli, c'est vrai, mais d'eau, et donc ça nourrit pas.
Ça, effectivement, j'étais en train de le noter parce qu'on va le choisir en extrait de la séquence. Je trouve que c'est intéressant, on n'en parle pas assez et c'est des astuces, des fois on trouve, des fois qu'on hérite, on entend, tiens, tu devrais essayer ça et ça devient des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, merci beaucoup. En conclusion, Déborah, qu'est-ce que vous diriez ?
Bah pour conclure, tout simplement, même si je sais que les habitudes de ce jeûne sont ancrées vraiment en parallèle de différentes cultures, c'est vraiment la culture qui l'emporte là-dessus, rien n'empêche de mettre en place des petits changements pour pouvoir mener ce jeûne dans des meilleures conditions physiques et santé optimales. Et souvent, un simple petit changement, même infime, permet de modifier tout un processus ancré. Donc, les personnes qui font le jeûne vont peut-être pas mettre en place tous les changements que je propose aujourd'hui, mais peut-être qu'ils peuvent mettre en place un de tous ces changements et que ça va révolutionner un peu leur façon de jeûner.
Eh bien, écoutez, si vous avez pu rendre service à une personne, et en particulier cette patiente là, que vous avez reçue, qui elle ne mange pas du tout le matin, on aura moins servi à quelque chose. Bon, écoutez, n'hésitez pas à nous refaire. Hein, Déborah, ces partages là, ces partages d'expérience en cabinet, ces retours d'expérience en cabinet, on est très très friands de cela. Et puis, c'est vrai qu'il y a au moins une personne ou deux qui peuvent s'y reconnaître. Donc, c'est toujours très sympa. Merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine. On va essayer d'avoir une connexion un peu meilleure.
Oui.
Hein, mais, mais bon. Franchement, c'est passé et on vous remercie encore. Une émission que vous allez donc pouvoir retrouver en podcast à l'issue de la semaine sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio, Déborah. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci à vous, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutriradio.